Ce show est dédié pour l'élévation de l'âme de Rabbi Ben Esther de Tanya Vracha. Ok, messieurs, ce cours est intitulé « Dernier briefing avant le Seder ». C'est-à-dire qu'on va parler de choses que vous avez déjà entendu beaucoup de choses sur le Seder, beaucoup de gens savent comment faire le Seder, mais beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et qui peuvent être intéressantes, des choses qui sont extrêmement importantes et d'autres, tout simplement, c'est bien de faire comme ça, il y aura un plus et c'est bien, si on peut, pourquoi pas. La prière de Arvit, le soir de Pessah. Donc cette année, l'année 2015, 5775, ça tombe vendredi soir. Il n'existe pas de prière plus grande, plus importante, qui fait plus d'effet de toute l'année que cette prière. Les gens ne savent pas, ils pensent que c'est Moussav de Yom Kippour, que c'est Moussav de Rosh Hashanah, c'est vrai que ce sont des grandes prières, mais la plus grande prière de toute l'année, c'est Arvit du soir du Seder.
Pourtant, c'est de Rabbanan, Arvit.
Ça fait rien, c'est une prière très grande. Pour les chemins Israël qui est d'Oraïta, qu'est-ce qui se passe en fait? Le vendredi soir, donc le soir du Seder, il y a une lumière extrêmement grande qui descend du ciel. La même lumière qui a permis au Bnei Israël de sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'il y avait les forces du mal qui empêchaient. La lumière est venue tellement grande qu'ils sont partis. Les forces du mal, quand ils voient trop de lumière divine, elles ne tiennent pas le coup. Quand on fait le Seder, cette lumière descend. On fait le Seder à deux niveaux. On le fait, un, au niveau de la parole et au niveau des actes. Au niveau de la parole, ce sera la prière. La même action qui sera faite le soir du Seder, on l'a fait déjà en prière, par la prière de Arvit. Donc on l'a fait lentement, comme il faut bien, avec beaucoup, beaucoup d'intention et de joie, qu'on est sorti d'Égypte, Dieu a amené cette grande lumière pour nous sauver, elle revient chaque année, cette lumière. Et on fait aussi le Hallel avec Bracha. C'est la seule fois de l'histoire, d'accord, de l'année, où on fait le Hallel le soir, en plus avec Bracha.
C'est-à-dire quoi avec Bracha?
On fait la Bracha auparavant. Bah, Ochatachem, le Kolmachem, Machar, Kedisham, Sam, Sam. Les Gmor et le Halel.
On ne fait pas d'habitude.
D'habitude, c'est-à-dire des jours où on le fait, des jours où on ne le fait pas. Mais jamais on le fait le soir. Ça n'existe pas une chose pareille. Et il est important, quand on fait la Bracha sur le Halel, de penser, rendre quitte le Halel qu'on fera dans le Seder. Dans le Seder, on fait aussi un Halel. On fait deux chapitres du Halel avant de manger. Et on fait tout le reste des chapitres du Halel après Birkat Hamazon. Entre le troisième et quatrième vers, on finit comme ça, on le Seder, qu'est-ce qui se passe? On dit tout le Seder, la Haggadah, et puis à la fin de la Haggadah, on dit les deux premiers chapitres, on dit, pour ça que nous, on a, l'obligation de louer, de louer, de, je ne sais pas d'autres mots, mais il y a 15, je crois, 15 là-bas synonymes, de louer Dieu, c'est pour ça qu'on va, et on commence, on dit, Halleluka, Halleku, Hallelu, et Abde Hashem, etc. On commence le Hallel, on dit les deux premiers chapitres. Après, on boit le deuxième verre de vin et on a fini la Haggadah. Après quoi, on se lave les mains, on fait à moitié, on mange à matzah, etc. Le repas, Birkat Hamazon, on boit un troisième verre de vin et là, on finit le Hallel. Ce Hallel a dit sans bracha. Il est bien que dans la bracha qu'on fait au Hallel pendant la prière, on pense qu'on quitte le Hallel du soir.
C'est juste pour la bracha qu'on quitte, c'est ça?
Voilà. Hein?
Quoi,
Arvit?
Pour le Hallel.
Ouais, le gomère d'Hallel, on finit bien sûr entier. Entier, entier. Ok, j'imagine qu'on vous en a déjà parlé. Il y a certaines mitzvot de la soirée qui ne sont valables qu'à la condition expresse, totale et indubitable et radicale, et encore d'autres synonymes du même type, que si on les fait be'aseva. C'est-à-dire, manger la matzah et boire les verres de vin, c'est obligatoire de les manger en ha-seva. Qu'est-ce que ha-seva? Il y a un film qui est sorti il y a 2-3 ans d'un rabbin qui montre comment c'est le seder. J'ai appelé là-bas, j'ai fait un scandale. C'est un scandale, d'accord? Le rabbin, il fait la seva. Comme on boit le verre de vin, par exemple, ou la matzah, il fait comme ça. Ça ne vaut absolument rien. Une seva, pour être valable, on doit se pencher à 45 degrés. Ça veut dire, au moins comme ça. Vous voyez, 45 degrés?
Il faut se mettre sur un fauteuil, alors.
Alors, chez nous, on met des lits. Des lits, d'ailleurs, chaque année, il y a la bagarre avec ma femme si on mettra un. Parce que, attends, on mettait 5 lits et les enfants sautaient, c'est la joie. Là, il en a ras-le-bol parce que. Il y a plus d'enfants et puis on prend de l'âge, ça fait un fatigue. Donc pour finir, j'ai pu décrocher, je crois, deux lits pour cette année. Un pour moi et un pour mon père, d'accord? On se met sur les lits et c'est ça. C'est pourquoi on se met à Seva, parce que derrière Malchut, de façon royale.
Quel est le mot?
Haseva. Haseva. Maintenant.
Ça veut dire qu'on quitte la table?
Non. À la place où on est.
Alors, vous mettez des lits à votre place?
Des lits à la place, bien sûr. Des lits autour de la table, bien sûr.
Ça va,
t'en fais pas. Le lit est exactement la bonne hauteur qu'il faut. Il n'y a aucun problème. Ok? Alors, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de dossier sur le lit. Bon, en tout cas, on peut faire la seva bien.
Vous mettez un lit comme ça et vous...
Toi, par exemple, sur un banc, pareil, c'est excellent. Tu peux le faire bien, tu mets tes pieds après sur le banc. Et...
Ah d'accord, carrément.
Alors, on se la kiffe, voilà, il faut, exactement, on se la kiffe. C'est ça, comme un roi, malchout, royal. Il faut être royal. On sort d'Égypte, on est comme des rois.
Est-ce qu'on a le droit de se mettre à 45 degrés comme ça ?
Alors, maintenant, il y a des faux 45 degrés. C'est quoi ? D'abord, 45 degrés dans l'air. Il n'y a rien là. Ça vaut rien du tout.
Ah ouais ?
Ouais, rien. Hein ? 45 degrés en avant. Ça vaut rien. 45 degrés derrière, même sur le côté, comme ça, ça vaut rien non plus.
Enfin, en fait, il faut être accoudé.
Alors, qu'est-ce qu'il faut ? On s'accoude sur la chaise du voisin, ou les genoux du voisin, ça va.
Ah,
si on n'a pas, quelqu'un qui est en tête de table et sur sa chaise tout seul, il s'accoude sur la chaise. Comment on fait ? On déplace le postérieur en mettant une petite partie, la partie droite du postérieur se trouve à l'extérieur de la chaise, et on met le coude là, comme je vous montre l'exemple. Voilà, là, je suis en aseva, c'est bon. Pas en arrière, vous voyez, je suis complètement sur le côté, mes pieds sont comme ça, voilà. Et là, on boit la coupe de vin et on mange la matzah.
Là, c'est de façon royale. Vous n'êtes pas royal. Vous
c'est pas, je ne suis pas royal, mais c'est de façon royale, c'est vrai. Si on n'a pas royal, au moins on aura façon royale. Si on n'a pas fait ça, on n'est pas rendu quitte. Tu as mangé la matzah, tu as fait bracha le bata, tu as fait une bénédiction en vin, parce que tu n'as pas fait la mitzvah comme il fallait. Idem les femmes. Certains disent que pour les femmes, si elles n'ont pas fait, alors c'est valable quand même. Mais la majorité des poskim disent que non. Même une femme, si elle n'a pas fait comme ça, elle doit remanger la matzah, revoir les verres de vin, etc. Faites attention à cela, parce que beaucoup de gens ne sont hélas pas rendus quittes à cause de cela. Alors, il y a 4 verres de vin. Est-ce qu'on prend du vin ou est-ce qu'on prend du jus de raisin ? Celui qui peut prendre du vin, c'est mieux. Pourquoi ? C'est la mitzvah de pourquoi on doit boire du vin ? Parce qu'on est comme des rois, on est content. Un roi, il ne boit pas du jus de raisin, il boit du vin. D'accord ? Il y a la simchat hatag, la joie de la fête, et le vin, il rend joyeux. Donc celui qui peut boire du vin, c'est conseillé. Celui qui peut boire du vin qui n'a aucun ajout. D'après le Rambam, Maïmonide, on est rendu quitte que si on prend un vin qui n'a aucun ajout. Dans les vins commercialisés, il y a toujours des ajouts. Il y a de la matoline, il y a des choses, il y a des, bon, du sucre des fois. C'est valable, c'est clair, mais ce n'est pas le top. Parce que la chan n'est pas tranchée comme le Rambam. Celui qui veut gagner la vie du Rambam aussi, c'est bien trouvé, c'est un vin qui est totalement sans aucun ajout. C'est mieux.
C'est-à-dire quoi sans aucun ajout?
Quelqu'un, tu prends des raisins, tu les presses, ce qui coule, tu les bois. Tu attends quelques temps, voilà. Non, tu attends qu'il fermente, ça devient du vin. Si quelqu'un y peut, c'est bien avec du vin. C'est quoi il peut? Où est le problème? Le problème, c'est que, d'abord, ceux qui sont des fils aînés, ils ont jeûné toute la journée. Donc après un jeûne entier, tu bois un verre entier de vin comme ça, d'un coup, d'accord? Ensuite, tu fais la gada, tu prends un deuxième verre que tu bois d'un coup. Et après, tu prépares à l'acte extrêmement grand et compliqué de manger la matzah. C'est très compliqué parce qu'il faut penser à ci, penser à ça, c'est très compliqué. Alors, si tu sais que tu n'es pas fortiche, mais il ne vaut pas le faire. Tu bois, alors il y a plusieurs solutions. Ou bien tu fais moitié-moitié vin, jus de raisin, ou tout jus de raisin. Celui qui peut, c'est mieux. Ou il ferait une partie avec du vin, une partie des verres avec du vin, une autre partie des verres avec du jus de raisin. Autre solution, on peut couper le vin avec de l'eau. Tant que le vin a un goût de vin, on peut couper. Donc on peut facilement mettre avec un bon vin, on peut mettre facilement la moitié d'eau, c'est encore un peu du vin. Donc au niveau de l'alcool, ça te baisse de moitié, et voilà, comme ça, ça règle le problème.
Et du coup, un verre de vin, il faut qu'il y ait un minimum de...
86 millilitres.
Ah ouais.
Il faut, si possible, prendre des verres petits, parce qu'il faut boire la majorité du verre. Donc il faut prendre 45 millilitres. Le mieux, c'est boire tout le verre, 46 millilitres, d'un coup. Si on ne peut pas, au moins la majorité, c'est en 44 millilitres, si le verre fait 86, donc la majorité du verre, et on a 4 minutes pour le boire.
4 minutes.
4 minutes.
Oh, voilà.
Le mieux, c'est d'un coup. Voilà. Voilà, je voulais le dire, mais tu l'as dit à ma place. D'accord ? Ça, c'est pour le vin. On a beaucoup de brachot ce soir-là. Le Gaon de Vilna, il dit qu'il y a 64 mitzvot le soir du Seder. Maintenant, on a les brachot, par exemple, quand on fait le karpas, on mange le céleri, on fait boire après Adama, en pensant, faut penser, rendre quitte le maror qu'on va manger dans 2 heures plus tard. Le maror se mange, après qu'on a mangé la matzah, on mange la laitue, le maror. Vu qu'on on le mange sans pain, alors il n'est pas rendu quitte par le motzi, il faut faire boire après Adama auparavant. Quand 2 heures auparavant, quand on a pris le petit morceau de céleri qui doit faire moins de kazaït, on trempe dans l'eau salée, on fait boire après Adama. Il faut penser, rendre quitte aussi le maror, la laitue qu'on va manger dans 2 heures environ après toute la Haggada. On fait au début de la Haggada, le karpas, le céleri, la laitue, on la mange au début du repas. Maintenant, ça, c'est des choses qui sont simples. Le problème est que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est qu'on fait le seder dans une certaine salle, puis après, on quitte la salle pour aller se laver les mains. ou aller aux toilettes, ou n'importe quoi. Or, vous savez que pour les Sfaradim, si on quitte la salle après avoir fait une bracha, c'est un problème si on peut continuer à manger de l'aliment hors de cette salle, ou même revenir dans la salle et continuer. C'est une divergence d'opinion entre les décisionnaires du Moyen-Âge, déjà dans la Gemara, ensuite dans les décisionnaires du Moyen-Âge, ensuite entre le Shulchan Aruch des Sfaradim et des Ashkenazim. Donc, si on est sorti et on n'a pas pensé que la bracha était valable pour tout l'appartement, on a un problème. On n'est pas rendu quitte après un certain avis. Refaire la bracha, on ne peut pas, parce qu'on avait dit que tu es rendu quitte. Pas la faire, refaire la bracha. Pas la faire, c'est un problème, parce qu'il y en a un qui dit que tu dois la refaire. Donc il est important, quand on fera toutes les brachot sur le vin, pendant le kiddush, on fait boire après à Geffen, sur le vin, et on va rendre quitte deux verres de vin. Celui qu'on va boire maintenant dans le kiddush, celui qu'on va boire après la Haggadah, dans deux heures. Il faut penser boire après à Geffen, pense rendre quitte le deuxième verre. Idem, quand après Birkat Hamazon, on fait la bracha boire après à Geffen sur le troisième verre, il faut penser rendre quitte le quatrième verre. Les Ashkenazim font une bracha sur chacun des quatre verres. Mais nous, on fait une bracha sur les deux premiers et une bracha sur les deux deuxièmes. Si on a quitté la salle, on a problème de pouvoir boire le vin, parce qu'on boit sans bracha. Si c'est arrivé, alors on boit sans bracha, mais c'est un problème. Le mieux est, si tu quittes la salle pour aller aux toilettes, tu quittes la salle pour te laver les mains, tu quittes la salle parce qu'il y a un bébé qui crie, d'accord ? Le seder, c'est pas qu'on est tous assis comme ça sans cesse pendant trois heures. Il y a des allées et venues. Donc il y a de fortes chances que tu quitteras. Par exemple, laver les mains. Tu laves les mains où ? À table ? D'habitude, tu vas dans la cuisine, te laver les mains avant le repas. Tu étais à la cuisine, quand tu reviens, tu as un problème. Adama, que tu as fait déjà avant le repas, tu n'as pas pensé à tout l'appartement, ben, il est plus valable. En tout cas, c'est un doute. Bourré après la Geffen aussi. Donc, quand on fera la bracha, bourré après la banane du Carpas, sur le salaire au début du repas, quand on fera bourré après la Geffen, on pensera toujours, chaque bracha qu'on fera, le hamotzi, etc., le hamotzi c'est plus facile. Chaque bracha qu'on fera, on pensera quitte tout l'appartement. Comme ça, il n'y a pas de problème.
Et juste une question, par exemple, vous, le CDR de Pessah, ça prend combien de temps? Juste
on va en parler, on va en parler, on va en parler. Quand on fait le kiddush, on dit Shehriyanu. La bracha, le maître de maison, fait la bracha Shehriyanu pour, comme à chaque fête, quand il y a une nouvelle fête qui arrive, on fait la bracha Shehriyanu. Il est bien de penser à ce moment, de rendre quitte, par ce bracha de Shehriyanu, toutes les mitzvot qu'on va faire ce soir. Les quatre verres de vin, la matzah, le maror, la lecture de la Haggadah, toutes ces mitzvot qui sont des mitzvot énormes, normalement on doit faire Shehriyanu. Vu qu'on a déjà fait pendant le kiddush, on ne les refait pas. Mais c'est important, pendant le kiddush, c'est important, c'est bien. Pendant le kiddush, de penser à rendre quitte toutes les mitzvot de la soirée quand on fait le Shehriyanu.
Non, il ne faut pas être bourré.
On n'est pas encore bourré, c'est une synagogue, maintenant t'as prié comme un ange, t'es au début du repas, c'est le kiddush, c'est bon. C'est après qu'il ne faut pas être bourré, ça devient beaucoup plus dur.
Toutes les brachot d'après.
Pardon ?
Shehriyanu rend quitte toutes les brachot d'après.
Il faut penser, rendre quitte par le brachot, on fait une fois Shehriyanu le soir, rendre quitte toutes les mitzvot qu'on fait après. D'accord. La Haggadah de Pessah, dans l'ordre, les verres de vin, la Haggadah de Pessah, la matzah, le maror.
En fait, à chaque fois qu'on fait un truc, on doit rendre quitte le...
Pas à chaque fois, mais souvent. Il faut bien apprendre tout ça, c'est une vraie seder, ça signifie l'ordre, c'est très ordonné, c'est très précis, il faut faire bien, on reçoit la lumière. Après c'est un flash, Bezrat Hashem, atomique, qui tombe sur nous, Bezrat Hashem.
Amen. Là à Paris on reçoit le même flash.
Ouais, vous recevez la moitié du flash, mais vous avez deux soirs. Ah. Un soir à moitié, un soir à une autre moitié.
Comment c'est un flash?
Un flash de lumière. Quand tu pries à Dieu ici, t'as un flash, des fois un petit flash comme ça, le soir de Pessah, c'est atomique. Boum, Bezrat Hashem. Le Carpas, donc, quand on, après le kiddush, on s'assied, on commence la Haggadah, et très tôt, on va se laver les mains tous, sans bracha, parce qu'on va manger un morceau de légumes qui n'a pas été trempé, qui est mouillé. Quand on mange un morceau de légumes qui est mouillé, il faut se laver les mains sans bracha. Profondément, on est en train de laver notre âme, d'accord ? C'est des choses très profondes qui ont lieu à ce moment-là. Et après, on mange un petit morceau de céleri. Il y a une divergence d'opinion, est-ce qu'on doit le manger Baseva ou sans Aseva, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Le top, c'est faire les deux. Tu manges un morceau sans Aseva, un autre morceau avec Aseva. Attention de ne pas manger une quantité de kazaït. C'est peu, c'est moins qu'un petit doigt. Le volume de moins d'un petit doigt, on va aller khumra, parce que pour la massa, c'est plus. D'accord. C'est bien de ne pas manger kazaït, parce que sinon, on rentre dans un doute, ça va faire bracha chrona. La bracha qu'on fait après la consommation, si on a mangé une chose, une quantité, un volume de kazaït, on doit faire une bracha achrona, une bracha après la consommation. On ne veut pas faire, parce qu'on veut rendre quitte par cette bracha bourrée près de le Maroc, on va manger dans deux heures. Si je suis en train de faire une bracha après, j'ai coupé la bracha, c'est mort, c'est terminé. Donc faire attention de manger moins de kazaït du karpas. On va en parler. On peut parler pendant le seder, jusqu'à ce qu'on commence la Haggadah. Quand on commence la Haggadah, c'est extrêmement important. Le Zohar HaKadosh, comment ça commence la Haggadah
À l'Armania,
exactement. À l'Armania. À ce moment-là, il faut se mettre en super, plus de Asava, on se met tout droit, parce que les anges, c'est marqué dans le Zohar que tous les anges font le silence là-haut pour écouter comment Béné Israël font la grande louange d'Hachem, des grands miracles qu'il a fait pour son peuple d'Israël. Et Dieu écoute. Et tous les anges sont là, ils applaudissent et ils apprécient. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grand. Toute la table, elle part là-haut et on est en face d'Hachem. Non. Pendant la Gada, on est en situation de crainte de Dieu. On fait la Gada sérieusement comme il faut bien. Et là, chacun fera en fonction des paramètres inhérents. Le grand-père qui est fatigué, les enfants qui braillent. Faire long ou faire court. Une bonne moyenne, c'est 2 heures d'Agada. Il y en a qui font une heure, il y en a qui font une demi-heure, d'accord. Une demi-heure, c'est vraiment zip, d'accord. Il doit partir à l'armée, faire sa garde. Mais ça dure bien une heure et demie, entre une heure et quart, une heure et demie, 2 heures. Le problème est, on peut le faire très très long, on peut faire toute la nuit, normalement. C'est marqué que toute la nuit, il faut rester réveillé, normalement, pour parler de la sortie d'Égypte. Le problème. Parler. Maintenant, le problème est quoi? Le problème est que, après la Agada, donc on fait le repas, après le repas, on mange la ficomane. La ficomane, comme on va voir, il y a 5 morceaux de kazaït, de matzah, qu'on mange durant le repas. Si possible, d'accord. Il y a 5, c'est le top. Après 4, après 3, après 2, après 1. Donc il peut vraiment un vieux qui n'a plus de dents, etc. Il peut se suffire de 1. Mais le top, c'est 5. 2 motzi matzah, 1 pour le korer, le sandwich qu'on fait avec le maror, et 2 pour la ficomane. La ficomane, qu'est-ce que c'est? C'est en souvenir. En souvenir, c'est l'essentiel de la mitzvah. Si quelqu'un ne peut pas manger la matzah, il est vieux, comme j'ai dit, il est malade, c'est très, très dur, il ne mange qu'un kazaït, celui de la ficomane. De la ficomane, pas les autres avant. À la fin du repas. Pourquoi? Il correspond au korban pessar, au sacrifice pascal qu'on faisait à l'époque. On portait un petit agneau, on le faisait sur le feu, on le mangeait. Et l'obligation de le manger quand on est rassasié. Donc on le mange en fin de repas. Et il était mangé avec de la matzah, c'est pour ça qu'il est bien de le manger. Le sacrifice pascal, on le mange à la place, on n'a pas de sacrifice pascal, on mange à la place un morceau de matzah de kazaït. Maintenant, le korban pascal était mangé avec la matzah. Alors nous, on prend de la matzah en tant que sacrifice pascal, puis on prend en plus la matzah qu'on mangeait avec. Donc 2 kazaitot. C'est bien 2, celui qui ne peut pas prendra 1. Maintenant, chose très importante, 2 choses importantes. 1, la ficomane, comme je dis, se mange une fois qu'on est rassasié. Donc il ne faut pas trop manger. Parce qu'on mange, il y a des bons plats. Madame a préparé déjà 4 jours à l'avance tous les bons plats. Tu as mangé déjà 2 casettes de matzah pour motzi matzah. 1 avec le korer, avec la haros, avec la sorte de confiture comme ça, tu en as mis plein. Après, tu manges. Vient le moment de manger la ficomane, tu es bloqué. Si tu es bloqué, tu ne peux plus manger. C'est dur pour toi de manger. Tu n'as pas fait la mitzvah.
Quand même le faire.
Mais tu as raté la mitzvah. On appelle ça achilagassa. On appelle ça une nutrition.
Transière.
Gassa. Vulgaire, voilà, dégoûtant, c'est pas, tu manges pas. Et mise à de manger, quand tu te forces comme ça, c'est pas manger. Il ne faut pas non plus être affamé quand on le mange. La première, c'est marqué, on mange la matzah, les théavon, en ayant faim. Donc c'est bien de ne pas manger beaucoup durant la journée. Pour manger la matzah avec théavon, avec appétit. Donc la première, il faut être en appétit, la dernière, il faut être rassasié. Pas affamé, pas avoir faim parce que ça ne va pas, pas trop rassasié. Donc il faut se calculer bien.
Juste pour le jeûne des prominés.
Attends, t'en mélange pas parce que ça va faire après de la salade niçoise. La ficomane, donc 2 choses importantes. Première, donc la manger quand on est rassasié, mais pas trop. Deuxième, le korban pessar se mangeait avant minuit. La question était, est-ce qu'on peut faire la gada longtemps? Oui, mais attention, il faut faire extrêmement attention de manger la ficomane avant le minuit juif, sinon on a raté. Et comme je dis, c'est l'essentiel de la mitzvah, de manger la matzah, c'est de la ficomane.
C'est chatzot.
C'est chatzot, minuit juif. Il faut absolument manger la matzah, la ficomane, avant le minuit juif. Donc si tu fais trop long la Haggadah, dans les familles qui sont super marrantes, ils font la Haggadah très long, après ils mangent en 3 minutes, et après ils continuent, d'accord? Ils arrivent. Mais va dire à la maîtresse de maison qu'on fait la Haggadah 3 heures, après on mange en 3 minutes, elle te regarde du regard pas très sympa, d'accord? Donc être intelligent, eh bien, 1h30 de Haggadah, après si on mange normalement encore 1 heure, c'est bon, tu as le temps. C'est pour ça qu'il faut s'installer quand on revient à la synagogue, pas commencer bonjour comment ça va, une demi-heure on tourne en rond pour s'asseoir. Non, directement on commence pour gagner du temps, pour faire mieux la Haggadah. Deuxième chose, non seulement, comme ça que la Rabbanan Abba Shaoul, non seulement la ficomane il faut manger avant minuit, mais après qu'on a mangé la ficomane, on fait Birkat Hamazon. on boit le troisième verre, on finit le Hallel, tous les derniers chapitres du Hallel comme j'ai dit auparavant, et on boit le quatrième verre, et juste avant de boire le quatrième verre, on finit le Hallel avec une bracha. Yihallucha, etc. Baruch at Hashem, Melech Mehulal Batishbachot. Comme ça on finit le Seder. Cette bracha doit impérativement être faite avant minuit. Parce que d'après certains avis, si on la fait après minuit, c'est bracha le batala, c'est une bénédiction en vain. Hélas, beaucoup de gens ne font pas attention. Ils font attention à la ficomane, ils ne font pas attention à cette bracha, la bracha aussi. Donc tout cela nous raccourcit le temps de la Agada, bien faire en sorte de finir, de boire le quatrième verre, la bracha qui est juste avant, de finir le Hallel avec sa bracha avant le minuit juif.
Avant le minuit juif, c'est pour les forces du mal, tout ça ?
Non, rien à voir, parce que tout cela a lieu, tout le Seder, il a lieu avant le Korban Pessah, tout cela a lieu avant minuit, après minuit, il n'y a plus rien. C'est autre chose. Après, il y a une autre loi. C'est bien, comme il y a Rabbi Sandbach, je vous rappelle ça aussi maintenant, on ne met pas de pyjama la nuit du Seder. Parce que le Shulchan Aruch dit qu'après qu'on a fini toute la Haggadah, on boit le quatrième verre, et là, on compte, bon, il y a certaines chansons à chanter, ceux qui veulent, Hadgadia, Shirachirim, etc. Puis après, on part à la sortie d'Égypte jusqu'à ce que le sommeil nous attrape, nous rapte, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Hertov. Donc on est réveillé, mais après 4 verres de vin, mon cher ami, après toute la pression, la baisse de pression qu'il y a après, parce que c'est la pression, Pessah, la baisse de pression, allez, va, que tu allais ouvrir l'œil, d'accord ? Mais tu ne peux pas aller te lever, mettre ton pyjama. Mets ton pyjama, tu dois parler de la sortie d'Égypte, puis tu t'en peux plus, tu dors, tu t'affales sur la table, d'accord ? Tu t'affales sur la table comme tu étais habillé pour le soir de Pessah, c'est un qui sont déjà là-bas comme toi, très bien rangé là-bas, ceux qui sont en habit européen comme moi, bon, en habit européen, tu t'endors et voilà, puis au bout d'un moment, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, tu te réveilles, là tu te lèves, tu vas dans ton lit, tu mets en pyjama et tu dors. Maintenant, ceux qui n'ont pas bu de vin, qui sont en forme, ça vaut la peine. Chez nous aussi, ça se fait, donc il y a la synagogue, il y a un grand tzaddik qui va là-bas, il fait toute la nuit avec un groupe, comme ça, toute la nuit, il parle de la sortie des fiches jusqu'il prie après, honnête. Moi, j'arrive pas parce que je suis complètement chaos, d'accord, après le vin, etc. Mais ceux qui peuvent tenir, c'est beaucoup plus important de rester réveillé la nuit de Pessah que rester éveillé la nuit de Shavuot ou la nuit de Hoshana Rabba. La nuit de Shavuot et la nuit de Hoshana Rabba, c'est juste une khumra. C'est à cause du Zohar, c'est un tzadikim, d'après le Zohar, rester réveillé toute la nuit de Shavuot et toute la nuit de Hoshana Rabba. C'est le Zohar qui dit ça. Au niveau du sens simple, dans Shulchan Aruch, c'est pas marqué nulle part. Par contre, parler toute la nuit de Korban Pessah, c'est marqué dans la Mishnah. La Mishnah te dit ça. Donc la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, Shulchan Aruch, c'est une loi. C'est une loi. Donc si on peut le faire, c'est très bien.
Et nous, c'est deux soirs, alors.
Si tu peux, c'est certain que c'est mieux.
Mais si on ne fait pas la tefila après, ça ne sert à rien.
Quelle tefila ? Ah ouais, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne doit pas pour cela rater la prière. Mais en France, la prière commence à 9h30, je crois, le lendemain du Seder. Donc tu peux aller 5h au lit, tu as tes 4h30 de sommeil, tu reviens frais comme il faut.
En France ?
En France.
J'ai une question sur le jeûne. Du coup, ça veut dire qu'on mange pas du tout, vu que c'est Shabbat, donc on mange pas du tout jusqu'à la rentrée de Shabbat, et comme la rentrée de Shabbat, après on commence à prier, etc., jusqu'à la fin.
Les aînés ne mangent pas du tout, à moins qu'ils aillent à la synagogue écouter un Siyum Maserhet. Quelqu'un qui finit un traité de Talmud, et même avec lui à manger, il faut qu'il écoute, et qu'il comprenne ce qui est dit, et qu'il mange au moins kazaït, ou de dattes, ou de biscuits kasher de Pessah, le matin, ou de jus de raisin. Hein ?
Non, j'aurais pas ce.
Ok, alors il faut que tu. Alors dans ce cas-là, ce que tu peux faire, quelqu'un qui jeûne toute la journée, il peut après le kiddush et avant le karpas. Le karpas, c'est quelques minutes après le 5-6 minutes après le kiddush, on mange le karpas. Dans ce laps de temps, tu peux manger. Pas beaucoup, tu peux manger un œuf, un peu de riz, d'accord ? Histoire de sustenter pour tenir le coup dans la suite. Dès qu'on a commencé, dès le karpas, on peut plus manger parce qu'on a fait bracha achrona, et par bracha achrona, on casse la bracha à boire après la main qu'on a fait pour le maror.
On a vu que c'est pour le vendredi soir, on va devoir chanter chez la malékhène.
Oui, aussi. Et on fait les deux, on fait un kiddush qui est une combinaison du Shabbat et de Yom Tov.
Et pour le justement le samedi soir pour nous.
C'est aussi, Yokneaz ça s'appelle. Yokneaz. Yud fait la bracha sur le vin. Après kiddush, après ner sur les bougies. Après Havdalah, après Shehayanu. 5 brachot le samedi soir. Voilà, dans l'ordre que je dis, Yokneha ça s'appelle.
Il y a une force en plus que ce soit le fait que ce soit Shabbat.
J'imagine que oui. Donc, laisse-moi avancer, parce qu'on finira pas. Le moment le plus important de la soirée, c'est manger la matzah. Je rappelle qu'on la mange sur le côté, ben c'est va. Il faut au minimum manger kazaït en 4 minutes. Pour qui c'est dur de manger en 4 minutes. C'est pas beaucoup kazaït, c'est rien, c'est deux fois ça, même pas. C'est un peu plus que ça, c'est pas grand chose. Un cube de 3,1 cm de volume. 3,1 cm de côté, de volume de un cube d'un volume de 3,1 cm de côté. C'est à peu près la grandeur d'une boîte d'allumettes standard universelle. Il faut manger cette quantité au moins en 4 minutes, pour les personnes pour qui c'est dur, n'ont pas de temps, etc. 6 minutes, c'est encore plus dur. 7 minutes, c'est vraiment très dur. 9 minutes, mais pas plus. Ça, c'est le minimum. Le top. Quand je vous dis le top, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Si possible, manger 2 casettes, même pour une personne qui n'est pas le maître de maison. Le maître de maison, il a 2 matzot. Il y a une qui est celle sur laquelle il fait, qui est le motzi, celle du dessus, et celle qui est la matzah. La motzi, elle est entière, la matzah, elle est coupée en deux. Maintenant, il y a une divergence d'opinion, on ne sait pas, dans la halakha, sur quelle des deux matzot on fait la mitzvah de matzah. Sur celle du dessus ou celle du dessous. Donc on fait sur les deux. On mange les deux. On mange 2 casettot. Ça, c'est le maître de maison. Alors, Bessam Bachou, il écrit que c'est bien que chacun essaie de manger aussi 2 casettot. C'est pas compliqué, des gens jeunes comme vous, il n'y a aucun problème. Donc c'est bien, pas obligatoire, c'est bien. Alors, où ça se complique, c'est là. C'est que c'est bien de manger ces 2 casettot ou 1 kazaït d'un coup. C'est quoi d'un coup? Il y a 2 choses là-dedans. Le plus important, les gens ne le savent pas, le plus important, c'est le mettre dans la bouche d'un coup. Donc tu prends 2 casettot de matzah, ça fait à peu près comme ça. Presque une matzah de machine entière, un peu plus. D'accord? Mettre d'un coup, tu ne peux pas. Donc tu la coupes en petits morceaux. Moi, j'abroie comme ça, d'accord? Et après, comme ça, il faut être sur le côté. Bon, c'est épique, hein, faut pas que les gens te regardent. Tu mets de côté, comme ça, tu mets comme ça d'un coup, c'est la mitzvah. Et après, tu mâches. En parenthèse, c'est 4 minutes, commence au moment où tu as avalé. Donc, le moment que tu as mis dans la bouche, tu mâches pendant 10 minutes, il n'y a aucun problème. Tu salives bien, fais attention que ça ne tombe pas. Donc, tu es vers le bas, comme ça, tu vas me dire, tu salives. À chaque fois, ma femme croit que je m'étouffais, et ça me fait rigoler. Bon, il faut. Non.
Même après?
Après, pour les gens vieux, ils peuvent boire un peu d'eau. Pas de vin. Alors,
même si par un moment j'ai mon verre et je sais qu'il y avait plus que mon verre et je laissais un peu, j'ai pas le droit de le
après, faire. Pas en même temps, et c'est marqué de l'eau. Il faut que tu gardes. Bon, pour le moment, peut-être quelque chose d'autre, je sais pas, entre deux matzot, c'est marqué de l'eau. Laissons comme c'est marqué. D'accord? Maintenant, après, donc première chose, c'est mettre dans la bouche d'un coup. Celui qui fait un kazaït, c'est très simple, c'est pas compliqué. Hein, comme une boîte de lumette, tac, tu mets d'un coup. Facile. Deux kazaïtot, c'est déjà plus dur. Tu mâches. Une fois que c'est bien tout mâchouillé, t'es sur le côté comme ça, essayez de l'avaler d'un coup. Tout le gosier, et ça descend d'un coup. Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est ça la grande mitzvah de faire. Sachez qu'on n'a pas de mitzvah aujourd'hui de manger, à part cette mitzvah. Beaucoup de mitzvot à l'époque de manger tous les sacrifices, il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, c'est la matzah, le soir de Pessah, une grande mitzvah. Et c'est le Zohar dit que c'est un pain de guérison. Ça amène une lumière très grande dans l'âme. Et quand l'âme est guérie, le corps aussi est guéri. On sait bien que la majorité des maladies, si pas toutes, sont psychosomatiques, que la source est dans l'âme. Donc c'est un grand pain de guérison, ça vaut bien la peine de bien faire cette mitzvah. Oui.
La matzah Shmura, c'est pratiquement impossible de broyer 2 casettes pour les mettre dans la bouche.
Si, c'est tout à fait. Kazaït, c'est à peu près ça, c'est pas énorme. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Une boîte d'allumettes standard universelle. Un cube qui fait 3,1 cm, c'est ça. Un cube comme ça, c'est pas beaucoup.
Pourquoi vous comme ça pour 2 kazaït?
Ah, mais c'est plat.
Parce que c'est plat.
Il faut bien les préparer avant la fête pour qu'on puisse les.
Ouais, voilà. Ok.
Et vous pouvez nous dire pourquoi on cache la ficoman? C'est pour les enfants ou il y a un...
La ficoman, non, c'est pas pour les enfants. La ficoman, on coupe en deux. Il y a une partie, la petite, qui correspond à la rédemption qu'on a eue en sortant d'Égypte, et la grande, qui correspond à la rédemption qu'on aura très bientôt avec le Mashiach. Et laquelle des deux est plus grande? Celle du Mashiach ou celle d'Égypte? Celle du Mashiach. Pour ça qu'elle est plus grande et qu'on la cache, parce qu'on ne sait pas quand elle viendra. C'est caché quand on vient le Mashiach. On espère qu'il viendra cette année, mais personne ne le sait, c'est caché. Ok. Comme je l'ai dit auparavant, il ne faut pas beaucoup manger durant le repas des plats que madame a cuisinés. parce que il faut qu'on mange la ficomane avec appétit, qu'on ne soit pas trop rassasié. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas trop manger, d'après le Rambam et d'après le Gaon de Vilna, pendant le soir de Pessah, et aussi durant toute la fête des 7 jours, mais plus le soir de Pessah, chaque fois qu'on mange la matzah, on fait le mitzvah de la Torah. Rabbi Shlomo Bachoul dit, si possible, manger que de la matzah, avec le vin et un morceau de viande pour la mitzvah de Simchat Yom Tov. Il y a la mitzvah de manger de la viande les jours de Yom Tov, pas beaucoup manger. L'essentiel, chaque fois que tu manges de la matzah, ce soir-là, tu fais une mitzvah de la Torah. Et je vous dis, c'est rare, il n'y en a pas d'autres. Il y a une qu'on apprend à la matzah, c'est manger le kazaït de pain dans la soukha, premier soir de Soukhot. Alors c'est deux mitzvot qu'on a, pas une comme je disais auparavant, deux. Mais la deuxième, elle provient de la première, on l'apprend de la première. Donc, si on peut manger beaucoup de matzah durant tout le repas, c'est mieux. Manger de la matzah, c'est, comme je dis, un pain de guérison. On mange un petit machin à côté, et on passe à la ficomane, de nouveau de la matzah. Et encore deux verres de vin, et là, t'es complètement fini. Pardon ? Obligatoire de la matzah shmura. C'est quoi la matzah shmura ? De la matzah qui a été gardée depuis au moins la licha, ça veut dire le pétrissage, si possible, depuis le moissonnage. Maintenant, il y a un gros problème avec cela, c'est que la matzah pour le soir de Pessah qu'on mange pour faire la mitzvah, le kazaït de matzah, le korer, la ficomane, c'est une matzah qui a été faite pour la mitzvah de matzah. Ce n'est pas fait pour la mitzvah de matzah. Quand les types ils ont fait la matzah, ils ont pétri, ils ont ouvert, ils ont mis au four, ils doivent dire auparavant, l'échem matzat mitzvah, pour la mitzvah de matzah. Si on pas dit ça, la matzah n'est pas valable. Elle vaut rien du tout.
Ah ouais, on sait.
D'où on sait, on imagine que les gens qu'ils ont fait, ils ont bien fait. On espère. C'est pour ça qu'il faut acheter des bonnes matzot. Il y a un gros problème, c'est quoi? Est-ce qu'on est rendu quitte avec une matzah qui est faite à la machine? Il y en a des post-crimes qu'on va dire qui disent que oui. Mais beaucoup de grands décideurs disent que non. Pourquoi? Parce que l'électricité, c'est pas toi. Quand tu as plus d'électricité, en fait, tu fais en sorte qu'il y ait un courant. Alors, le premier jet du courant, c'est toi. Mais le reste qui passe après, c'est pas toi. Donc, c'est pas toi qui fais la matzah. Donc, moi, je dis maintenant, échelle matzah de mitzvah, je fais cette matzah maintenant pour la mitzvah, c'est pas toi qui la fais, c'est l'électricité qui le fait. Donc, si possible, pour les matzot du soir de Pessah, ne pas prendre des matzot qui sont faites à la machine, les carrés, prendre celles qui sont faites à la main, qui sont rondes.
Mais il n'y a pas des chômeurs, c'est pas surveillé.
C'est surveillé, c'est bien surveillé. Maintenant, ouais, ça y est, il y en a les plus chers. On dit, c'est lechem oni, un pain de pauvreté. Parce qu'à l'époque, en Égypte, ils n'avaient pas le moyen de faire fermenter, ils n'avaient pas le temps, ils mangeaient un pain très, très simple. Aujourd'hui, on a un pain de pauvreté, tout celui qui l'achète, il devient pauvre. D'accord ? Tu veux de la matzah bonne, ça coûte chez nous, moi ce que j'achète, environ $60 le kilo. D'accord ?
C'est
une fortune. Ça fait 45 euros, un peu plus, 50 euros le kilo. Ça, c'est le top. C'est des trucs bien comme il faut bien. Il y a des problèmes. Je vous dis en deux mots, parce que je ne vais pas rallonger trop. Le problème le plus grave qu'il y a avec les matzot qui sont faites à la main, c'est que comme ça, quand on met de l'eau, il faut faire attention que c'est quoi la matzah? C'est de la pâte non fermentée. Maintenant, comment ça fermente? Je crois que vous voyez, si je mets de l'eau sur de la farine, au bout de 18 minutes, ça fermente, pas avant. Ça, c'est à condition que j'ai mis l'eau sur la farine et je n'ai rien fait. Du moment que j'ai commencé à pétrir, je malaxe la pâte et commence à chauffer. Et là, c'est écrit, si je la laisse même un instant, miyad, immédiatement, elle fermente. Immédiatement. C'est quoi ce immédiatement? C'est pas clair. Le problème est que comment on fait les matzot? T'as quelqu'un qui pétrit, après il donne des morceaux aux gens, il commence à ouvrir. Chacun ouvre, il ouvre comme ça, après il passe comme ça, il y a une sorte de chaîne. Et au bout d'un moment, on arrive près du four. Là-bas, il y a quelqu'un qui est avec un bâton comme ça. Et quand la matzot elle est prête, tchic, 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 on parle avec un roller dessus pour faire les trous, et il la pose sur le bâton. Des fois, le four, il est plein. Et ta matzot elle est prête. Le type a mis son bâton, elle est là. Et tu l'as travaillé, elle est toute chaude comme il faut, et rien qui se passe. Alors des fois, il va les mettre sur le bâton, puis le bâton, il fait un peu d'air comme ça, histoire de... ça vaut rien. Alors, Arbesson, il dit que si c'est 10-15 secondes, ça peut encore aller. Plus ça devient embêtant, une minute déjà, ça devient problématique. Et j'ai été dans beaucoup d'endroits où ils font les matzot, ils font pas trop attention à cela, il faut faire bien vérifier, si possible. Donc on prend des matzot avec un bon hercher, des gens orthodoxes très sérieux qui connaissent la halakha et qui font attention. Font attention qu'il n'y a pas un moment où les matzot, elles restent sans être travaillées.
C'est extrêmement dur ce que vous nous dites.
Ouais, je te dis tout ce qu'il faut. Allez, on avance. Je vais finir rapidement. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Le Maror, on prend de la laitue. Dans ce qui peut et vous pouvez en France, c'est bien de prendre... Dans le Maror, il y a deux endroits dans le plat où on met de la laitue. Un endroit où c'est marqué Maror, c'est au centre du plat, et dessous, Hazeret. Les deux, on met là-bas de la laitue. Celui qui peut obtenir des endives, les endives, c'est marqué dans la Mishnah, Ulshin, d'accord, c'est des endives. Andivi, c'est marqué dans les commentateurs, Andivi, c'est des endives. C'est bien de mettre dans le plat, quand c'est marqué Maror, l'endroit où c'est marqué Maror, c'est au centre du plat. Mettre là-bas et la laitue et les endives. Parce que c'est bien, d'après la Kabbalah, qu'il y ait tout les choses comme il faut. On n'est pas obligé de manger, on ne mangera pas des endives, on mangera que de la laitue. Mais néanmoins, on mettra un morceau d'endive au centre du plat. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien. En France, c'est facile de le faire. Ici en Israël, c'est difficile de trouver des endives. Rav Eliashiv, on la met toujours des endives. Quelqu'un lui a amené de l'étranger, deux, trois endives pour son soir du seder.
Donc, au centre du plateau.
Au centre du plat, l'endroit où c'est marqué Maror. Quand on prend le Maror pour faire la mitzvah de Maror, on prend du centre, l'endroit où c'est marqué Maror. Après qu'on fait le sandwich, on appelle ça le korer, avec matzah et maror, les deux liés, on prend le maror, on prend la laitue du chazeret. C'est deux endroits différents parce qu'au niveau des sphères, c'est autre chose qui se passe. Comprenez que ce soir-là, très important au niveau, c'est une grande chose kabbalistique qui se vient, une grande lumière qui descend par les 10 sphères. Le plat du seder correspond aux 10 sphères. Tu as 3 en haut, 3 matzot. C'est les 3 sphères d'en haut. Après, tu as le bras. Zroas, on peut avoir un bras avant de mouton grillé, c'est bien. Les œufs, après le maror, dessous on va prendre le haroset, donc la confiture un peu mélangée comme ça avec des dattes et des pommes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le céleri, et dessous de nouveau la chazeret, de nouveau de la laitue. Ça fait 9. Avec le plat, ça fait 10. Le plat aussi qui est la malchoute, la royauté qui entoure tout. Et quand on fait tout cela, on mange chaque chose au bon moment, on reçoit le flux extraordinaire qui descend du ciel. C'est pour ça qu'il est important de laisser, bien qu'on a mangé à la fin du seder, c'est bien qu'il reste toujours un peu de chacune des espèces dans le plat principal du seder, qui est un peu de céleri, qui est un peu de maror, qui est un peu, etc., toutes ces choses-là. Et une chose qu'on ne mange pas le soir du Pessah, c'est le bras grillé. On ne mange pas de la viande grillée le soir du Pessah. Pour pas que les gens croient qu'on a grillé de la viande du sacrifice pascal. On n'a pas le droit de faire un sacrifice aujourd'hui hors du temple. On n'a pas de temple, donc il n'y a pas de viande grillée. Quand il mange la viande grillée, peut-être qu'il a fait un sacrifice. Il a crié, allez, moi je fais le Korban Pessah pour faire bien. C'est un issur karet. Donc pour que tout le monde soit bien certain, on ne mange pas de viande grillée. Il faut dire ça aux ménagères. Attention, il y en a qui ne savent pas. Tu nous fais une soupe avec de la viande, mais pas la viande grillée. D'accord? Cuite, frite, mais pas grillée. Le korer. Je vous prends un peu plus de temps, encore 2-3 minutes et on finit. Le korer, c'est le sandwich qu'on fait matzah et maror. Le maror, on ne mange pas comme ça. On ne le mange pas assez, on le mange debout, mais on le trempe dans la harosette. Harosette, c'est ce mélange, c'est pour se rappeler du ciment qu'il y avait en Égypte, des tuiles. C'est un mélange de vin doux avec du sucre, du miel, des dattes, des amandes, des pommes râpées. D'accord ? C'est une sorte de confiture très très sympathique. Et on va verser le maror, on va planter le maror, d'accord, l'enfoncer dans la haroset pour l'adoucir. Maror, l'enmirique, mavet, mort, d'accord, ça correspond aux forces négatives. On l'adoucit, ces forces négatives, dans la haroset. Après, on les sort comme ça pour pas que ça soit trop doux. C'est trop doux, tout le goût amer du maror va partir. On veut goûter le goût amer. Donc, on le trempe et après on le secoue comme ça pour enlever le maror. Quand on fait le korer, c'est quand on fait la bracha sur la matzah, la matzah et sur le maror, il faut penser aussi au korer. Au korer, on va remanger maintenant de la matzah et du maror, les deux. Pourquoi on fait ça? Comme Hillel, au temps du temple, il mangeait le maror et la matzah ensemble. Donc on les met ensemble, on fait un sandwich, et ça aussi on trempe dans la recette et on secoue. En fait, son Abba Shaoul, il précise du Shulchan Aruch, il voit que le maror, on le trempe complètement dans la haroset, et après on le secoue. Le Shulchan Aruch dit, on le trempe, on l'échaquer, on le noie complètement dans la haroset. Après tu le secoues. Le korer, non. Le korer, tu trempes un peu, pas besoin de le tremper complètement, et après tu le secoues aussi. C'est pour faire mieux. Chacun qui va faire un peu autrement, peu importe le moins que tu as les deux dans ta bouche, ça va. Tu veux faire top. Quand il trempe le maror, il le trempe complètement après le secoue. Le korer, il le trempe qu'un peu et le secoue. Je crois qu'on a fini, messieurs. Dernière chose. Le lendemain, on commence Sfirat HaOmer. 49 jours, il faut compter au soir la supputation de Homer, en bon français. On compte premier jour de Homer, deuxième, troisième. Je vous donne un conseil. Ne priez jamais sans minyan arvit. Celui qui prie sans minyan arvit, à coup sûr, il oubliera. Et si on oublie un jour, c'est mort. On ne peut plus compter après avec bracha. On peut, la journée, on peut encore, si on s'est rappelé avant le coucher du soleil, même avant la sortie des étoiles, on peut encore dire, aujourd'hui, c'est le jour d'avant, c'est le deuxième jour de Homer, deuxième jour de Homer, je peux encore rattraper
avant
ça. Il faut, après Arvit, on compte, aujourd'hui, un jour de Homer, chaque jour, après Arvit. Quelqu'un, il a oublié, il a prié tout seul, il a oublié. Si c'est rappelé la nuit, il le dit avec bracha. Si c'est rappelé le jour, il fait sans bracha, mais peut continuer après avec bracha, à continuer à compter. Tant que il n'a pas tant que la sortie des étoiles n'est pas arrivée du jour du lendemain, il peut encore se rappeler et compter, et après continuer à compter avec bracha. Si la sortie des étoiles est arrivée, il n'a pas compté, il a oublié un jour, c'est fini. Il continuera à compter, mais sans bracha. Les gens qui n'ont pas habitué, ils n'ont jamais fait ça de leur vie, ou deux, trois fois, il n'y a pas encore le réflexe de faire sur la terre en mer, c'est clair. Si on prie sans minyan, on l'oublie, et c'est dommage. C'est une très grande mitzvah. La lumière qu'on a reçue le soir de Pessah, énorme, elle repart immédiatement. C'était gratuit, nous avons dit ça gratuitement, on ne méritait pas de sortir d'Égypte. On était, c'est marqué qu'on était des idolâtres. Dieu a amené une lumière pour nous sauver gratuitement, on ne méritait pas ça, ça repart. Maintenant, pendant 50 jours, on va se purifier, 49 plus 1, le 50e jour c'est Shavuot, on se purifie tous les jours, on monte de degré pour par nous-mêmes arriver à un degré où on mérite de recevoir cette lumière-là à Shavuot, qui sera encore plus haute que ce qu'on a reçu le soir de Pessah. Baruch Adonai, Amen.